Mais oui, bien sûr.
Je le savais.
Eureka.
On vous parle aujourd'hui d'une pratique qui relève à la fois de l'exploration de terres inconnues, de la pratique sportive et d'un certain dépassement de soi. Nous vous emmenons à la découverte des hauts sommets, ces limites du monde vivant dont l'étude et l'exploration a requis l'invention d'une pratique nommée alpinisme. Comment, de l'Angleterre victorienne, cette pratique a-t-elle essaimé dans le monde entier et ouvert la voie des plus hauts sommets? Chaussez vos crampons, on va prendre de la hauteur. Au sommet, aller plus haut, c'est la conquête vertigineuse que nous allons réaliser dans l'heure qui vient. Bienvenue dans Eureka. Et pour découvrir ensemble ces hauts sommets, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui en studio Delphine Moraldo. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes sociologue, chercheuse au centre Max Weber et autrice de « L'esprit de l'alpinisme, une sociologie de l'excellence du 19e au 21e siècle » paru chez ENS Éditions. Nous avons également le plaisir d'être en ligne avec Catherine Destivelle. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes alpiniste et éditrice aux éditions du Mont Blanc. Et enfin, nous sommes en duplex depuis les locaux de France Bleu à Chambéry avec Claude Gardien. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes guide de haute montagne, journaliste et auteur du livre « Une histoire de l'alpinisme » paru aux éditions Glénat. Et pour démarrer cette émission, quoi de mieux qu'un récit d'ascension teinté d'aventure et de sacré? On écoute la voix du botaniste Roger M, qui en 1952 racontait son ascension de la montagne sacrée des Betsileos à Madagascar.
Au milieu de la grande forêt orientale, aux limites du massif de Likong, je me rapproche peu à peu, à petite journée, des confins de l'Ambondrombé, la grande montagne sacrée des Betsileos. Il faut que nous creusions nous-mêmes notre sentier à travers la sylve impénétrable. Malgré les difficultés créées par des populations du voisinage, je gagne la montagne sacrée et le 1er octobre, nous y campons tous. À la satisfaction que j'éprouve de cette réussite, se joint celle d'un autre ordre, mais aussi vive, d'y être venu avec mes hommes. Car l'Ambondrombé a une inquiétante réputation. Un chef Betsileo m'avait assuré que j'allais à une mort certaine et qu'il me serait d'ailleurs impossible de dépasser certains petits lacs au-dessus duquel les esprits étaient les maîtres. Il me raconta qu'un pasteur, ayant voulu pénétrer dans la montagne sacrée, fut entièrement déshabillé par les loules, les esprits, auprès de cet étang, ses effets brûlés et qu'il dut redescendre effrayé, nu et sanglant. À travers une sylve très compacte, faite d'arbres entrelacés, de composés arborescentes, de mucinées et de lichens pendant au-dessus d'un sol moussu, où l'on enfonce jusqu'aux cuisses, je gagne, avec Citanal dévoué, le sommet de la montagne sacrée. Mais au sentiment victorieux se mêlait au retour le regret d'une profanation.
Delphine Moraldo, c'est là tout bon le charme un petit peu désuet de ce genre de récit, mais ça nous renvoie finalement à un phénomène assez courant dans toutes les cultures. C'est un culte voué à la montagne, en tout cas un respect craintif vis-à-vis de cet espace-là. On pense par exemple voilà au Mont Olympe, au Mont Fuji. Toutes les cultures ont leur montagne sacrée. Pourquoi ça? Pourquoi est-ce que la montagne est un lieu aussi chargé symboliquement?
Alors j'ignore pourquoi c'est le cas, je pense qu'il y a des raisons aussi liées à la topographie particulière des montagnes. En tout cas, ce que je peux affirmer avec certitude, c'est que cette vision repoussoire de la montagne, mystérieuse, elle perdure jusqu'au 18e voire au 19e siècle.
Claude Gardien, voilà, la montagne est souvent un espace interdit, un espace qu'on ne doit pas gravir. Ça, c'est une constante aussi un petit peu dans l'histoire de l'humanité qui a été finalement une règle qui a été enfreinte au 19e siècle avec le grand boom de l'alpinisme.
Alors, les montagnes, elles ont été très vite considérées comme le refuge des esprits, les dieux bénéfiques comme l'Olympe, et puis souvent... on a considéré, en particulier, par exemple, encore aujourd'hui en Himalaya, que les glaciers et les hauteurs étaient peuplés de mauvais esprits. On a encore aujourd'hui, à l'Everest, un lama qui est présent au camp de base et qui va faire les prières et les rites de façon à attirer les faveurs des dieux pour que les sherpas et les cordées puissent cheminer avec un maximum de sécurité.
Mmh. Fut un temps aussi où les évêques allaient à Chamonix pour exorciser les glaciers. Donc voilà, ces lieux-là un petit peu qui sont chargés de façon assez ambivalente. Catherine Destivel, vous, dans votre pratique d'alpiniste, comment est-ce que vous décririez votre rapport à la montagne? Est-ce que quand vous vous confrontez à la montagne, vous avez l'impression d'aller vers une sorte de tout, d'organisme vivant?
Bah oui, même aujourd'hui, la montagne fait toujours un peu peur. On n'y va pas comme ça, le nez au vent. Et du coup, pour moi, l'alpinisme, c'est prendre des précautions avant de partir et ouais, voilà, bien m'y préparer pour éviter de me mettre en risque. Mais voilà, ça c'est. Je crois que tous les alpinistes aujourd'hui sont comme moi. Et c'est vrai que de monter là-haut, il existe des dangers réels. Et du coup, si on ne les connaît pas, effectivement, on peut se mettre en risque. Mmh. Donc, la montagne reste encore un lieu dangereux si on n'y prend pas garde. Mmh. D'autant aujourd'hui, encore plus avec le réchauffement climatique.
Bien sûr. On l'a vu, par exemple, avec ces vidéos assez impressionnantes de chutes de glaciers, notamment en Italie, mais aussi au Kazakhstan, je crois. Delphine Moraldo, la montagne a été donc cet espace un petit peu chargé symboliquement, chargé rituellement, religieusement. Ça a été aussi un espace frontière, un espace à franchir. On a tous un petit peu en tête ces légendes autour des éléphants d'Hannibal qui traversent les Alpes. À partir de quand est-ce qu'on peut dire que finalement on a eu en tête l'idée de conquérir la montagne et de finalement la soumettre entre guillemets à la volonté de l'homme?
Alors ça s'est fait progressivement. Il y a cette date clé qui est l'ascension du Mont Blanc, le sommet culminant des Alpes en 1786. Mais cette espèce de conquête systématique des plus hauts sommets, pour reprendre le titre de votre émission, c'est vraiment à partir du 19e siècle, et plus spécifiquement du milieu du 19e siècle qu'elle a lieu.
À partir de ce moment-là aura vraiment lieu la naissance de l'alpinisme. Claude Gardien, peut-être qu'on peut évoquer un petit peu les proto-alpinistes, ou en tout cas les pionniers de cette pratique-là et de ces ascensions-là. Je crois qu'au début, il y avait quand même une certaine teinte scientifique dans la conquête et dans l'exploration des hauts sommets. Est-ce que on a finalement découvert relativement tard l'aspect riche en termes de faune et de flore de ces hautes montagnes?
On connaît quand même des cas de fréquentation de la haute montagne qui remontent à l'Antiquité. Certains, pour effectivement, par curiosité scientifique, pour étudier ce milieu. D'autres, simplement, par curiosité de découvrir le monde, par audace un petit peu. Et parmi eux, au XVIe siècle, un naturaliste suisse qui habitait Lucerne et qui s'appelait Konrad Gesner. Il a gravi le mont Pilate, qui était au-dessus de sa ville natale, et il a très vite ressenti quelque chose de particulier là-haut, au-delà de sa passion de découverte, d'analyse et de collecte d'échantillons. Au point que, dans une lettre à un ami, il affirme que, pour sa part, il s'arrangera chaque année pour gravir une montagne, certes pour les besoins scientifiques qu'il envisageait, mais aussi pour le bien que cela apporte à son corps et à son esprit, et le plaisir qu'il y prend.
Mmh. Alors, j'ai sous les yeux une citation de ce même Konrad Gesner qui parle justement de ce lieu-là, du mont Pilate. Bon, Pilate qui serait hanté par l'âme de Ponce Pilate, tout simplement. Donc, Konrad Gesner dit « Nulle part autant que dans la montagne, on ne découvre dans un si petit espace aussi grande variété, puisqu'on peut en un seul jour voir et sentir les quatre saisons de l'année. Dans un silence profond et religieux, du haut des crêtes sublimes de la montagne, on pourrait presque percevoir l'harmonie des sphères célestes. » Voilà un petit peu dans ce style très 16e siècle, cette impression forte que fait la montagne sur Conrad Gessner. Si on avance un petit peu dans le temps, Delphine Moraldo, on peut peut-être mentionner une figure qui est celle de Horace Bénédicte de Saussure, qui est l'un des fondateurs de l'alpinisme. Lui aussi, dans ses travaux, il y a une teinte scientifique dans cette exploration des hauts sommets.
Bah, c'est même la principale justification. C'est difficile de séparer les différents motifs, mais il fait l'ascension du Mont Blanc, disons, sur le papier pour des mesures scientifiques, alors qu'on peut supposer qu'il le fait aussi par esprit de conquête. Ce qui est intéressant, c'est que par la suite, notamment dans la première moitié du 19e et au milieu du 19e, il y a des débats assez vifs au sein de l'Alpine Club, chez les Anglais, sur les motivations à donner à la conquête des sommets. Mmh. Et bon, Saussure, c'est un précurseur de ça, et il y va quand même comme scientifique, mais on voit... Enfin, vraiment, je trouve qu'on voit ce tournant dans les années 1840-50 où, pour la première fois, on affirme aller au sommet pour le plaisir, en fait, pour la simple envie d'y aller. Mmh.
Catherine Destivelle, puisqu'on parle de haute montagne, de haut sommet, est-ce qu'on peut avoir une définition de ce qu'est la haute montagne par rapport à la basse montagne? Est-ce qu'il y en a une vraiment définie clairement?
Pour être honnête, je sais pas trop, mais
est-ce qu'il y a des critères, par exemple,
on commence à avoir un équipement d'alpiniste, des chaussures, des crampons, un piolet, une corde. Là, on peut dire qu'on est en haute montagne. Mm-hmm. Si on marche dans les alpages, on est en montagne, mais c'est pas de la haute montagne.
Oui. Il y a des critères peut-être de flore. Peut-être que c'est le moment où il y a plus trop de forêt,
voilà,
où
la flore,
la végétation change.
La végétation s'étage, oui, au fur et à mesure qu'on monte, elle se fait de plus en plus rare. Et effectivement, dès qu'on atteint certaines altitudes, on n'y a plus beaucoup de flore. La faune non plus, d'ailleurs. Enfin, tout ce qui est petites bêtes, en tout cas, il y en a beaucoup moins. Enfin, genre marmotte et tout ça, elle reste dans les alpages. Et au-dessus, ça commence à s'appauvrir. Mais voilà, donc la haute montagne, l'alpiniste, un alpiniste, en principe, était équipé d'une corde, de chaussures, de piolets, de crampons pour pouvoir affronter les différents obstacles qui vont se mettre devant lui, soit de la roche, de la glace, de la neige, et du coup il est bien équipé pour faire face à des glissades essentielles.
Bien sûr. Et au danger de cette pratique.
C'est une lecture du terrain. Mm-hmm. Le danger, c'est éviter de se mettre dans une crevasse. Et voilà. Donc à l'époque de Saussure, d'ailleurs, à l'époque, il n'avait pas de corde. Mm-hmm. Il fonctionnait avec des bouts de bois et il grimpait comme ça le long des pentes du Mont Blanc. Et puis progressivement, la corde est apparue et l'alpinisme avec. Enfin, début des années 1900, la corde était là. Puis ensuite, ils ont inventé le piton dans les années 1910. Puis le piton qui était juste un crochet par lequel on passait la corde par-dessus. Et ensuite, ils ont inventé le mousqueton qui était inspiré des mousquetons que les pompiers utilisaient à Munich. Pour pouvoir accrocher la corde au piton, c'était le lien. Et puis progressivement, l'alpiniste s'est de mieux en mieux assuré.
Bien sûr.
Mais c'est vrai qu'au départ, c'était très aventureux.
Et on viendra bien sûr à l'importance qu'ont eu ces développements techniques pour la sécurité des alpinistes, mais aussi pour l'ascension de ces hauts sommets. Ce sera dans un instant.
Oh, Tukamachi, réveille-toi. Comment tu te sens? Tu crois que tu peux grimper?
Laisse-moi.
Discute pas. Enlève ton sac.
Non.
Donne-moi aussi ton piolet, ça va nous gêner. Éteins tes crampons de la glace et laisse-toi faire.
Arrête, tu n'y arriveras pas. On va y rester tous les deux. Tiens bon.
Ça va aller.
Pour quelle raison aller toujours plus haut? Être le premier. Pourquoi risquer la mort? Pourquoi faire une chose aussi vaine? Pour certains, la montagne n'est pas un but, mais un chemin. Et le sommet, une étape. Une fois là-haut, il n'y a plus qu'à continuer.
France Culture, Eureka, Antoine Beauchamp.
Voilà un court extrait du film d'animation de Patrick Imbert, Sommet des Dieux, adaptation du fabuleux manga de Jiro Taniguchi. Claude Gardien, si on poursuit un petit peu dans cette histoire de l'alpinisme et l'histoire de la découverte des hauts sommets, on en arrive au 19e siècle qui est le véritable siècle de naissance de la pratique de l'alpinisme. On peut peut-être poser un petit contexte historique. C'est un contexte de développement du tourisme, ce 19e siècle. Chamonix, par exemple, devient une destination de tourisme. Alors expliquez-nous un petit peu comment on va progressivement se dire « Ah tiens, on va monter dans ces montagnes, on va s'organiser pour créer des groupes avec des guides, etc. » Comment ça naît tout ça ?
Ça naît tout d'abord avec la première ascension du Mont Blanc qui a été évoquée. Les guides, les paysans montagnards se sont lancés à la découverte du chemin sur l'idée d'Horace Bénédict de Saussure qui a promis une récompense à qui trouverait le chemin et qui lui ferait profiter de cette découverte pour l'emmener au sommet, faire les observations qu'il entendait faire là-haut. C'est ainsi que donc Jacques Balma et Michel Gabriel Paccard, qui était un médecin et naturaliste chamoniard, ont découvert la route qui menait au sommet, après quand même 26 années de tentatives. Et Jacques Balma a organisé la deuxième ascension avec ses collègues cristalliers, chasseurs de chamois de la vallée, afin de leur faire connaître le chemin, la façon de s'y prendre, la façon de vivre là-haut, à haute altitude déjà, et pouvoir proposer à Horace Bénédict de Saussure de faire la troisième ascension avec quand même une caravane importante de 18 guides. Et chose étonnante, Saussure était accompagné de son valet, qui portait un nom tout à fait légitime en la circonstance, puisqu'il s'appelait Têtu. Et Dieu sait qu'il faut être têtu pour aller au sommet du Mont Blanc.
Alors, ce tournant du 18e et du 19e siècle marque aussi, je crois, Delphine Moraldo, la naissance des compagnies de guides. Alors là, ça apparaît justement après des accidents graves, où les guides décident de s'organiser pour s'assurer de bonnes conditions de sécurité. Ça, c'est intrinsèque à tout le développement de l'alpinisme, cette notion justement de parer autant que possible au danger et d'avoir des règles, une codification assez stricte de la pratique.
Alors, la codification, je pense qu'elle vient un peu après. Mais effectivement, il y a de plus en plus de touristes qui arrivent, pas forcément pour faire le Mont Blanc, mais pour aller sur la mer de glace, pour faire des petits sommets. Et donc, la compagnie des guides de Chamonix est créée en 1821, il me semble. Absolument. Peut-être à une année près.
C'est ça.
Je sais qu'il y a un débat sur la date exacte. Justement, pour organiser un peu cet accompagnement des touristes qui viennent. Ce qui signifie pas que les guides sont tous des alpinistes chevronnés ou qui sont tous capables de monter au sommet du Mont Blanc. C'est vraiment pour accompagner les touristes aux glacières qui sont un lieu de villégiature et de d'émerveillement de l'époque. Et puis la codification vraiment de l'alpinisme comme sport, elle se fait plus tard, elle se fait par les alpinistes eux-mêmes, en fait, ouais. Ceux qui emploient les guides, qui sont leurs serviteurs dans les premières années.
Ce qui est assez drôle et cocasse et paradoxal, c'est que l'alpinisme, ça naît en Angleterre, qui n'est pas franchement le pays le plus reconnu pour ses hauts sommets. Dans quel contexte, Delphine Moraldo, ça naît et ça s'organise, l'alpinisme ?
Alors, je n'oserais pas dire que ça naît vraiment en Angleterre, parce qu'on va me hurler dessus. mais c'est vrai que les Anglais créent le premier club alpin, l'Alpine Club, en 1857. Il y a tout un faisceau de facteurs en fait, qui contribuent à cette naissance en Angleterre, un contexte politique plutôt calme, alors que la France, elle est embourbé dans des changements de régime, dans une guerre, etc. Ouais. Donc en fait, le club alpin français est créé quasiment 20 ans après l'Alpine Club, ce qui est intéressant. Il y a aussi la révolution industrielle qui a lieu plus tôt en Angleterre et qui donne naissance à une nouvelle classe bourgeoise de personnes qui ont des revenus, des moyens et qui veulent eux aussi participer à cette conquête impérialiste qui a lieu à l'époque en Angleterre, ne pouvant pas forcément aller très loin du pays, ayant très peu de vacances, ces bourgeois vont investir les lieux qu'ils peuvent explorer. Et un des lieux les plus proches, c'est les Alpes. Ce qui est curieux, parce qu'il y a des sommets quand même au Royaume-Uni, au nord du Royaume-Uni, mais ils vont aller dans les Alpes. Le développement du chemin de fer y contribue aussi. Le développement du tourisme aussi. Donc toutes ces choses-là sont entremêlées pour la création de l'Alpine Club, ce club de gentlemen au milieu du 19e siècle qui vont s'attaquer méthodiquement à faire l'ascension de tous les sommets des Alpes.
Alors quel esprit prévaut justement à ce premier alpinisme-là ? Est-ce que c'est, vous l'expliquez, cet esprit de conquête, de dépassement de soi déjà ? Est-ce que finalement les premiers alpinistes anglais posent l'esprit de l'alpinisme tel qu'il dure encore aujourd'hui.
Alors ça, c'est la thèse, ce qui est la mienne, mais c'est le titre de mon ouvrage aussi, l'esprit de l'alpinisme. Je pense que oui, les Anglais vont vraiment codifier l'alpinisme d'une certaine manière qui leur est propre. Et je pense que cet esprit de l'alpinisme, on en a encore des traces aujourd'hui. Il va perdurer, il va se cristalliser, il va s'exporter dans d'autres pays, forcément avec des variations. Mais les Anglais posent vraiment les bases d'une conception de l'alpinisme. Et cette conception de l'alpinisme, elle vient en fait, à mon avis, du fair play sportif. Le sport est inventé au Royaume-Uni au même moment, au milieu du 19e siècle, dans les années 1840. Et on se rend compte que ces alpinistes qui créent l'Alpine Club sont aussi des sportifs. Ils pratiquent dans ces public schools, ces écoles pour la bourgeoisie, les jeunes bourgeois de l'époque et les jeunes aristocrates. Ils pratiquent le sport à l'université et cet esprit du sport, qui est vraiment quelque chose en Angleterre, le fair play, l'abnégation, l'esprit d'équipe et l'amateurisme aussi, parce qu'il faut être un amateur, il faut surtout pas gagner de l'argent, ça vient salir, corrompre le sport. Et bien, ils vont l'appliquer à leur pratique de l'alpinisme. Et c'est pour ça que les alpinistes anglais considèrent que les guides, pourtant meilleurs sportivement qu'eux, si on veut, les guides sont meilleurs qu'eux parce qu'ils pratiquent toute l'année, ils sont nés dans les montagnes, voilà. C'est indéniable. Ne sont pas des alpinistes. Donc ils admettent que les guides sont meilleurs qu'eux sur le terrain, mais ils leur refusent le qualificatif d'alpiniste.
Et c'est eux qui s'attribueront justement la gloire de ces ascensions-là. Catherine Destivel, qu'est-ce qu'il y a en vous, alpiniste, de cette alpinisme des origines, est-ce que vous vous retrouvez dans ces valeurs qui ont prévalu à la naissance de l'alpinisme au 19e siècle ?
Tout à fait. C'est-à-dire que même encore aujourd'hui, les règles, l'éthique des Anglais a déteint sur nous tous. C'est-à-dire que je vais parler de la conquête de l'himalayisme et les grands parois qui sont gravis en style alpin. À l'origine, c'était les Anglais qui ont émis cette règle où on se dit qu'on ne doit pas fixer de corde fixe, par exemple, pas utiliser de porteur pour aller en haute altitude et gravir les parois comme si on était dans les Alpes. Donc aujourd'hui encore, on continue à être influencé par cet esprit pur, enfin pur entre guillemets, hein. Mais on essaye en tout cas de suivre certaines règles. Et encore aujourd'hui, lorsqu'on croise des Anglais, c'est assez amusant, ils ne doublent pas. Ça ne se fait pas, on reste derrière une cordée, même si ils sont beaucoup plus lents que nous. Les Anglais ont un certain fair play et respect des autres alpinistes. Et donc ça, c'est assez intéressant et marquant, parce que nous, latins, on est un peu on va doubler, il va trop lentement, etc. Et un Anglais ne le fera jamais.
Éthique toute britannique, mais qui est propre aussi, cette notion d'éthique, elle est propre aussi à l'alpinisme. Et c'est ce qui est très intéressant dans cette pratique-là, Claude Gardien, c'est que on se confronte dans l'alpinisme à un élément naturel qui est assez imprévisible, la haute montagne. Et donc, du coup, ça renvoie à une forme de responsabilité des alpinistes vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis des gens qui les accompagnent et vis-à-vis du lieu qu'ils fréquentent. Ça, c'est une constante aussi dans l'histoire de l'alpinisme.
Tout à fait. Je pense d'ailleurs qu'au-delà du souci éthique qui animait les grands alpinistes anglais du 19e siècle, il y a une nécessité. C'est-à-dire que une fois qu'on est immergé dans cette nature puissante, c'est un paroxysme de nature, la haute montagne, on est obligé d'être solidaire. Effectivement, plus tard viendra l'alpinisme solitaire, dont Catherine Destivel est une des plus importantes représentantes. Mais globalement, on se sent quand même un peu plus fort quand on est en équipe, avec chacun son rôle, des règles observées par tout le monde. Et surtout, ça rend possible la gestion de la prise de risque à travers les technique d'assurance qu'on a évoquée il y a quelques minutes.
Delphine Moraldo, à partir de ce développement de l'alpinisme et de cette organisation, en tout cas de l'alpinisme par les Anglais, comment ça va essaimer en Europe ? Et est-ce que l'esprit insufflé par les Britanniques va être le même du côté des alpinistes français, italiens, autrichiens, allemands ?
Alors non, pas exactement. En fait, c'est vrai que c'est ce qu'on appelle l'éthique en fait en alpinisme est vraiment a vraiment une origine anglaise. L'éthique, c'est un peu le fair play appliqué à la montagne. C'est enfin pour résumer ce qu'on a dit, c'est pour respecter l'adversaire qui est la montagne et ne pas s'accorder une victoire trop facile, il faut limiter les aides à l'ascension. Donc il faut limiter l'usage des crampons par exemple, les premiers alpinistes anglais les refusent. L'oxygène, la corde, enfin voilà, ça varie au fil du temps. Donc ça, c'est très ancré en Angleterre et c'est un peu plus atténué dans les autres pays. Ça se diffuse en se modifiant. Par contre, on voit que effectivement, les Anglais sont les premiers et via divers médiums comme les guides, les journaux des clubs alpins, les Anglais publient des best-sellers au 19e avec 40-50 rééditions d'ouvrages. Donc c'est vraiment des ouvrages qui sont lus. Via leur club aussi, l'Alpine Club, c'est très prestigieux d'en faire partie. Donc les Français, les meilleurs Français essaient d'en faire partie. Tout ça, c'est des vecteurs de diffusion de cet esprit. Et effectivement, les Anglais sont quand même admirés. On le voit dans les écrits du CAF à l'époque, du club alpin français, où le modèle à suivre, c'est les Anglais. Donc en France, cet esprit se diffuse, mais de manière atténuée. Et puis après, il y a même des oppositions. Les Anglais, dans les années 20, par exemple, critiquent l'alpinisme germanique, l'école de Munich, qu'ils considèrent comme une forme dévouée d'alpinisme parce que c'est un alpinisme qui utilise des aides artificielles que eux rejettent, qui est bien plus performant que le leur dans les Alpes. Les grandes faces nord, c'est pas les Anglais qui les ont faites dans les années 30. Donc ici, on voit que voilà, cet esprit originel, il est pas forcément transmis tel quel. Et il reste très britannique, et c'est ce que disait Catherine d'Estivelle. Les Anglais, ils continuent de se vanter aussi de posséder cette éthique pure, plus pure que les autres.
Alors, dans ces premiers temps de l'alpinisme, on parle d'un premier âge d'or, Claude Gardien. Quels sommets mythiques vont être gravis dans ce milieu du 19e siècle? Et avec quels moyens? Il faut peut-être rappeler un petit peu les équipements de l'époque.
Oui, tout à fait. Les moyens de l'alpinisme au milieu du 19e siècle, ils sont pas beaucoup plus développés que ceux de l'époque de la première ascension du Mont Blanc. On a des cordes en chanvre qui résistent difficilement à la chute du leader et on n'a pas encore trouvé vraiment le moyen de protéger cette chute. Ça viendra plus tard avec l'invention des pitons qu'on enfonce dans les fissures. Donc, cet alpinisme-là, c'est vrai, c'est un alpinisme, on va dire, pour reprendre une expression qui a été employée tout à l'heure, c'est un alpinisme d'excellence dans la mesure où la cordée n'a pas droit à l'erreur. Alors l'erreur, malheureusement, elle va arriver de façon tonitruante en 1865, lors de la première ascension du Cervin au-dessus de Zermatt, par une cordée de 7 personnes. C'était une cordée assez lourde pour une ascension de cette difficulté-là à l'époque. Et à la descente, un des alpinistes va trébucher, bousculer celui qui était devant lui, et ce sont finalement 4 personnes qui vont tomber, et la corde qui les relie aux 3 autres au-dessus va se rompre. Alors, c'est une corde qui n'aurait sans doute pas dû être utilisée pour relier deux membres de la cordée. C'était une corde de secours qui était destinée à être laissée en place pour descendre le long de la corde ou pour aider le passage de certains à la montée. Donc, ça a fait, et effectivement, ça a créé une grosse émotion, des interpellations à la Chambre, au Parlement britannique, d'autant plus que parmi les membres décédés de la cordée, il y avait Lord Douglas qui était apparenté à la famille royale. Donc, la question se posait à propos de cette nouvelle activité à laquelle de nombreux jeunes de la bonne société britannique se livraient et qui les fauchait en pleine jeunesse. Et on peut penser que c'est à ce moment-là que l'accident de montagne devient vraiment une image, évidemment négative, de notre activité.
Alors cette activité, je le disais, Claude Gardien, elle prend quand même son essor à ce moment-là, et puis des voies sont ouvertes dans des lieux mythiques comme les Dolomites. Catherine d'Estivelle, ces voies-là, elles font encore partie, je crois, des plus difficiles aujourd'hui. Alors peut-être qu'on va commencer par un truc très simple. On parle de quoi quand on dit ouvrir une voie? Et quand on ouvre sa voie en alpinisme, qu'est-ce qu'on fait concrètement?
Ouvrir une voie, ça veut dire tracer un itinéraire là où personne n'est jamais passé. Donc, on ouvre un itinéraire et on est le premier à gravir cette paroi ou cette ligne. Parce qu'en fait, dans une paroi, il peut y avoir plusieurs lignes. Donc, au début, de l'escalade pure, enfin les Italiens ouvraient souvent des voies assez logiques dans les Alpes aussi, des éperons, des fissures, des dièdres, et puis progressivement la technique évoluant, les alpinistes sont engagés dans des voies plus parfois plus directes ou déversantes ou plus techniques, enfin plus techniques au fur et à mesure du progrès technique effectué. Soit dans le matériel, parce que le matériel a joué un rôle énorme dans l'évolution de l'alpinisme, et puis du coup au niveau de la technique, la gestuelle de chaque alpiniste.
Ces voies-là, elles sont parfois, elles ont des degrés de difficulté. Quand est-ce qu'on a établi justement cette cotation de difficulté? Est-ce que vous pourriez nous la présenter, Catherine Destivelle?
Alors, le degré de difficulté. Alors moi, les dates, je suis pas très bonne avec les dates.
Très important, mais en tout cas, je crois que c'est au début des années 20, au milieu des années 20. Mais sur les critères de difficulté.
Il y a eu les premiers, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième degré. Le sixième degré est apparu dans les années 30-40 chez les Italiens. Et le sixième, c'était le degré le plus difficile. Moi, lorsque j'ai démarré l'alpinisme, le sixième était aussi l'escalade. En tout cas, était le plus haut degré. Aujourd'hui, avec les progrès, nous en sommes au neuvième degré. Et alors, à chaque degré a été rajoutée une petite lettre. Par exemple, quand vous débutez, vous pouvez dire que vous pouvez grimper du 4. 4A, 4B, 4C, 5A, ensuite 5B, 5C. Jusqu'au 5C, quelqu'un qui est un petit peu, qui s'est bougé, peut gravir ce genre de difficulté. Ensuite arrive le 6, aujourd'hui le 6A, le 6B, le 6C, le 7A, le 7B. Et progressivement, en fait, il faut s'entraîner pour pouvoir gravir ces échelons. Alors aujourd'hui, l'escalade pure se développe un peu partout en France, dans le monde d'ailleurs, grâce aux salles d'escalade, et puis aux compétitions qui sont nées dans les années 80 et qui ont maintenant été présentées aux Jeux Olympiques. L'année dernière.
C'est très intéressant cette histoire en parallèle de l'escalade, de l'escalade et de l'alpinisme. Comment l'escalade au début était un moyen de s'entraîner pour les alpinistes et comment finalement l'escalade s'est émancipée de l'alpinisme pour devenir une discipline à part entière.
Complètement. Et donc il y a certains des grimpeurs qui n'iront jamais en montagne, qui ne souhaitent pas d'ailleurs. Donc l'escalade est devenue une activité presque gymnique. Et puis l'alpinisme, une autre activité, mais plus aventureuse.
Si on poursuit un petit peu dans cette histoire de la découverte des hauts sommets et de développement de l'alpinisme, Delphine Moraldo, est-ce qu'on peut dire qu'autour des années 30, finalement, on a fait le tour des Alpes et que tous les plus hauts sommets des Alpes ont été gravis? Et est-ce que c'est à ce moment-là, finalement, qu'on se dit on va rajouter de la difficulté, on va commencer à gravir ces sommets par la face nord, qui est réputée être la plus compliquée, la plus périlleuse pour les Alpes?
Alors même avant, en fait, je crois que la majorité des sommets par les voies normales ont été faits avant la fin du 19e siècle, notamment par les Anglais en grande partie. Je crois qu'une quarantaine de sommets sont faits à cette époque-là. Et déjà avant, on commence à faire des ascensions par d'autres itinéraires. Donc ouvrir des voies, une fois qu'on a atteint le sommet par la voie normale, la voie la plus simple, la plus logique, ça commence déjà avant. Et effectivement, dans les années 20-30, il y a une compétition entre nations pour l'ascension des grandes faces nord, donc des faces nord, ces faces nord très impressionnantes, celle de Liger, celle des Grandes Jorasses, il y en a trois majeures, quoi.
Cervin,
Grandes Jorasses et Liger, qui sont toutes faites dans les années 30, pas par des Français, pas par des Anglais, donc par des Italiens, des Autrichiens et des Allemands. Donc effectivement, en fait, l'histoire de l'alpinisme, c'est il faut faire mieux que les prédécesseurs et il faut trouver des itinéraires nouveaux, il faut ouvrir des voies. Donc une fois que les itinéraires les plus simples ont été faits, on va trouver des itinéraires plus durs. Et puis, ce que font les Anglais, qui restent dans une logique assez de conquête, quand même, qui restent dans leur logique antérieure, c'est qu'ils vont s'exporter vers des massifs plus éloignés, avec des sommets plus hauts. Donc, ils continuent à appliquer cette logique de l'âge d'or, qui correspond aux années 1850-1860, mais plus loin, donc dans le Caucase, et puis ensuite dans l'Himalaya.
Dans l'Himalaya, on y reviendra, bien évidemment.
Début du XXe. Ouais.
Tout à l'heure, Catherine Destivelle, vous souhaitiez réagir avant ça?
Oui, ce que je voulais dire, c'est pas forcément des faces nord, mais c'est plutôt des faces en rocher. Mmh. Dès que ça devient plus technique, en fait, ils se sont orientés vers des parois plus techniques, chose qu'ils ne pouvaient pas faire avant, vu qu'il n'y avait pas de façon de moyen de s'assurer correctement. Et progressivement, en ayant plus de moyens, ils ont commencé à grimper aussi avec des espadrilles, qui a permis d'avoir une adhérence meilleure, et d'avoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, des pitons, des cordes en chanvre, et puis ensuite, les cordes ont changé aussi, hein, tout a évolué, elles sont devenues en nylon et beaucoup plus solides. Donc à chaque fois, c'est effectivement lié à la technicité. Toutes les voies, en fait, faciles en marche, plus ou moins, ont été gravies, puis ensuite, c'était le rocher qui restait.
Oui, parce que quand on parle de ces sommets mythiques, le Matterhorn, le Cervin, ou bien les Grandes Jorasses, voilà, qu'est-ce qu'ont ces sommets de si mythiques que ça, Catherine Destivelle?
Qu'est-ce qu'ils ont? Bah déjà, ce sont les plus hauts et les plus beaux. Si vous regardez le Cervin, il est magnifique.
C'est vrai.
Des belles. Ah bah oui, on trouve surtout les paquets de chocolat et les crayons suisses. Voilà, c'est un magnifique sommet. Et c'est vrai que c'est une paroi qui est de tous les côtés d'aspect rocheux. Et du coup, c'est pour cette raison que c'était l'un des grands sommets gravis. C'était en 1865 qu'il a été gravi et ça a traîné un petit peu. C'est pas été un des premiers en tout cas parce que c'était pas une pente de neige et puis les Jorasses, c'est pareil, les Jorasses par la Walker, par Cassin, c'était un événement fantastique parce que les Italiens venaient des Dolomites où ils s'étaient entraînés, c'était des très très forts grimpeurs quand ils sont arrivés là et Cassin a été droit à l'objectif que beaucoup de Français reluquaient, mais il l'a fait le premier. Mmh. Donc il y a eu aussi une guerre, un petit peu une compétition entre nations.
Ouais, c'est ça. Et c'est ça qui est intéressant.
Va être l'Italien, l'Allemand, le Français.
C'est très intéressant cet esprit de compétition parce qu'il va se révéler encore plus fort dans l'Himalaya. Restez avec nous parce qu'on va en parler justement dans un instant. Have you ever had a fever from a bitter sweet refrain? Have you ever kissed the sunshine? Walked between the rain? Well, just climb up on my music and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there jump off with me. There was a girl named Christmas. Did I tell you she drank gold? She wasn't very hard to capture, but she was rather hard to hold. Well, just climb up on my music and my songs will set you free. Well, just climb up on my music and from there jump off with me. Climb on my music par Rodriguez dans Eureka sur France Culture. Nous parlons tout au long de cette heure de la découverte des hauts sommets. Nous en parlons avec Delphine Moraldo, sociologue, chercheuse au centre Max Weber. Avec nous également Catherine Destivelle, alpiniste et éditrice aux éditions du Mont Blanc. Et nous sommes également en compagnie de Claude Gardien, guide de haute montagne et journaliste. Alors Claude Gardien, on en parlait juste avant la musique. L'expansion de l'alpinisme au monde entier et notamment ces alpinistes qui ont fait un peu le tour des Alpes et qui se tournent vers ces sommets encore plus impressionnants que sont les sommets himalayens, qu'est-ce que ça va impliquer là à nouveau comme développement dans la pratique, comme nouveauté dans l'approche de l'alpinisme?
La fascination que vont éprouver cette génération d'alpinistes, c'est celle pour de la haute altitude, c'est-à-dire dans ce qu'on a appelé à un moment le voyage au pays de l'oxygène rare. On sait que plus on prend de l'altitude, plus la pression de l'air diminue et que ça nous pose d'énormes problèmes physiologiques. On considère que si on nous transportait à 8000 mètres instantanément par la grâce d'un caisson de décompression, il nous resterait à peu près 20% de nos possibilités physiques et intellectuelles. Mmh. Donc ça pose des problèmes énormes, ce voyage en altitude. Ça va pas empêcher les alpinistes de s'y lancer très tôt. On évoquait le Caucase, par exemple, un grand alpiniste britannique qui s'appelait Douglas Freshfield est parti avec son guide François de Voissoux, guide de Chamonix, au Casbec en 1868. C'est un sommet qui fait plus de 5000 mètres. Ils vont faire aussi un des deux sommets de l'Elbrouz à 5600 mètres. Et puis, plus tard, Freshfield va se lancer dans l'exploration de l'Himalaya, en particulier, il va explorer toute la région du Kanchenjunga, qui est le troisième plus haut sommet du monde. Entre-temps, il y aura eu une expédition assez incroyable de la part d'un Italien qui s'appelait Louis-Amédée de Savoie, duc des Abruzzes. C'était un membre de la famille royale italienne, apparenté à Victor Emmanuel II, et il a toujours pratiqué l'alpinisme. Et il va se lancer en 1909 dans une tentative pour grimper le K2, donc deuxième plus haut sommet du monde, et sans doute le plus difficile,
Ouais.
Il culmine à 8611 mètres. Ça, c'est un monstre, c'est une pyramide absolument monstrueuse. Et ils vont directement attaquer cette pyramide par la voie la plus évidente, celle qu'on utilise aujourd'hui en tant que voie normale, qu'on appelle d'ailleurs l'éperon des Abruzzes, du nom de son premier explorateur. Alors ils vont échouer, c'est un petit peu normal, parce qu'ils manquent d'expérience de la haute altitude, de stratégie, etc. Mais ils ne vont pas partir sans essayer de glaner un autre sommet qui est tout proche, qui s'appelle le Chogoliza, et qui fait plus de 7500 mètres. Et ils vont arriver pas loin du sommet, uniquement stoppé par le mauvais temps. Donc ça montre un petit peu le niveau atteint par ces gens-là, et leur capacité d'engagement et d'adaptation. Alors, vis-à-vis du problème de l'altitude et l'immensité des pentes et des problèmes qu'ils avaient à résoudre, très vite va se poser la question d'une stratégie, c'est-à-dire qu'on va commencer à placer des camps successifs. On va s'en servir de ces camps successifs pour s'acclimater, c'est-à-dire monter de plus en plus haut, passer une nuit, redescendre, se reposer, aller un peu plus haut, et ainsi de suite. Alors, on considère que le corps peut s'acclimater correctement, c'est-à-dire vivre normalement, se reposer, avoir de l'appétit, digérer, soigner un petit bobo, jusque vers 6005, 6006. Au-delà, de toute façon, même acclimaté, l'organisme va s'éroder tout doucement. Oui, c'est ce que les Allemands, toujours très romantiques, appellent la zone de la mort. C'est ainsi qu'on va se doter des moyens pour arriver à se rapprocher de la cime, avec ces camps successifs, avec éventuellement des cordes fixes pour pouvoir faciliter en particulier le ravitaillement des camps par les porteurs d'altitude. Et puis très vite va se poser la question, celle de l'utilisation de bouteilles d'oxygène. Alors là, c'était une grosse entorse à la fameuse éthique et le respect qu'on doit à la montagne, parce que c'est carrément quelque chose qu'on peut assimiler à du dopage. Au rythme où les gens qui montent à l'Everest aujourd'hui faire du tourisme d'altitude respirent de l'oxygène, les 8850 mètres de l'Everest sont ramenés à 6006. Donc, à cette fameuse altitude où on peut encore
respirer,
avoir une activité physique, pouvoir lutter contre le froid, c'est très très important, parce que à haute altitude, le sang épaissit, et donc ça, ça entrave la circulation et donc ça peut créer des risques de gelure et d'hypothermie profonde. Donc c'est vraiment une aide, on va dire, médicale assez efficace. Et la question va être vite réglée, alors que parallèlement, par exemple, dans les années 20, les Anglais vont dépasser 8500 mètres sans oxygène sur l'Everest. Mmh.
L'Everest qui sera enfin gravi en 1953 par John Hunt et Ed Hillary notamment. Catherine Destivelle, ce style himalayen, qu'est-ce qu'il a de différent, de fondamentalement différent du style alpin, on va dire, du premier alpinisme en tout cas? Catherine Destivelle, nous avons...
Je suis désolée, j'ai un problème de connexion. Ah. Alors, en ce moment, j'entends pas... Alors on va les questions.
C'est ballot. On va essayer de vous reprendre sur une autre ligne dans quelques instants. Même question du coup, Delphine Morando. Comment est-ce qu'on peut définir le style himalayen par rapport au style qui a été développé dans les Alpes au début de l'alpinisme?
Le style himalayen des premiers temps, des expéditions sur l'Everest anglaise des années 20 et 30, et puis de la conquête himalayenne des années 50, c'est des expéditions lourdes. Donc on fait des camps, comme l'a dit Claude Gardien, on emploie des sherpas, des porteurs. Donc ça peut être des centaines de personnes qui portent le matériel, qui l'acheminent sur le premier camp, au camp de base, puis qui le portent d'un camp à l'autre. On installe des cordes fixes, donc des cordes qui restent sur la montagne. Donc c'est vraiment de la conquête, de la logistique très très lourde. Les alpinistes sont parfois un peu déçus quand ils font le récit. Enfin, ils disent que ça s'apparente à une conquête, en fait. On passe d'un camp à l'autre, on reste très longtemps sur la montagne, etc. Ça, c'est le premier style himalayen. Et puis ensuite, dans l'Himalaya, va être appliqué le style alpin, c'est-à-dire qu'on va monter léger, avec une petite cordée, au fur et à mesure, quoi, en dormant là où on s'arrête, on a repéré des endroits. Mais ça viendra plus tard, dans les années 70, ouais. 80, et Catherine Destivelle pour en parler.
Bien sûr. Alors Catherine Destivelle, pour en revenir à ce style himalayen, et puis à cette conquête quand même, c'est pas négligeable, cette conquête des plus hauts sommets de l'Himalaya. Là aussi, il y a quand même des récits assez légendaires. Bon, j'évoquais l'ascension de l'Everest par Ed Hillary et John Hunt en 53. Il y a l'Annapurna aussi par Herzog, Lachenal, Terray et Rebuffa en 50, où Maurice Herzog, bon, l'histoire retient qu'il a perdu une partie de ses doigts de pied. C'est quand même des conditions dantesques, l'Himalaya par rapport aux Alpes. Ou est-ce que, quelle est l'âme de l'Himalaya par rapport à l'âme des Alpes?
Bah, ça n'a rien à voir. C'est ce que disait Claude. Plus on monte, plus on est vulnérable, plus on se détériore, le corps humain se détériore. Et du coup, il ne faut pas y rester trop longtemps. J'ai publié d'ailleurs pas mal de textes sur ce genre d'expédition et c'est assez dantesque. Ça tourne vite à la catastrophe dès que les alpinistes sont coincés en très haute altitude. Et alors, l'esprit aujourd'hui change énormément. Il y reste toujours ces ascensions en pur style pour marquer l'histoire de l'alpinisme, parce qu'en fait les alpinistes ont envie de marquer leur temps. Je parle des forts, des professionnels, là aujourd'hui il y a plein de jeunes qui font des ascensions fantastiques en Himalaya, ce qui est récompensé d'ailleurs chaque année par cette récompense qui a été mise en point depuis 30 ans, le Piolet d'or. Mais il y a aussi des gens qui s'illustrent en gravissant aujourd'hui les sommets le plus vite possible, les 14 000 par exemple, le plus vite possible. Là, je viens de publier un livre de Nims Purja, qui est ce Népalais qui a gravi les 14 000 en 6 mois. L'Himalaya est devenu un terrain de jeu un peu différent, vu d'une façon différente de ce qu'il y avait il y a 20 ans ou 30 ans. C'est devenu... on s'aperçoit, par exemple, cette année au K2, je ne sais pas combien il y a eu de réussite, mais il y en a eu beaucoup, beaucoup. Ils ont tous l'oxygène, ils sont sur les cordes fixes, organisés par des expéditions, des commerciales. Donc, il y a des gens qui organisent ça exprès pour que ce soit bien, bien au point, que tout le monde puisse réussir, mettre leur chance au maximum de leur côté. Et donc, l'Everest se gravit comme ça. Et aujourd'hui, et le K2 et tous les 8000 se font aujourd'hui comme ça. Là, on voit qu'il y a une Norvégienne en ce moment qui essaye de battre le record de Nims Purja. C'est une autre dimension. Est-ce qu'on peut les appeler des alpinistes? On ne sait pas, parce qu'en fait, nous, alpinistes plus techniques, c'est pas ce qu'on a recherché, ce qu'on n'a jamais cherché à faire, en fait.
Et parmi... Alors, puisque vous évoquez l'ascension de ces 14 sommets de plus de 8000 mètres, il y a évidemment un pionnier en la matière, c'est Reinhold Messner, qui a été le premier à gravir ces 14 sommets de plus de 8000 mètres. Alors lui, ça lui a pas pris 6 mois, mais je crois 16 ans. Et je vous propose du coup d'écouter sa voix, puisqu'il intervenait dans l'émission Appel d'air, c'était sur France Culture en 2002.
We are going out of the society.
On quitte la société pendant un certain temps. On décide de ce que l'on va faire, comment on va le faire, et on est responsable de ces actes. Les règles sociales, lorsque l'on est en haut, dans les montagnes, n'ont plus d'importance. La nature règne, il y a le froid, il y a les avalanches, il y a le danger, et le danger règne. Et il faut accepter ces règles. Mais nous n'avons pas à accepter les règles édictées par Paris ou Bruxelles et ses politiciens. C'est très important de comprendre cela. Mais dans le monde de l'aventure en particulier, on sait que la liberté est une illusion. Lorsque l'on se trouve dans la merde, on n'est pas libre. Et la liberté que nous avons n'est qu'une illusion. L'aventure nous montre que la liberté humaine, est une illusion. C'est très intéressant. C'est, je dirais, le savoir qu'on tire de la montagne. Lorsque j'ai failli mourir sur le Nanga Parbat en 1970, il est trop tard pour dire « je suis libre de faire ce que je veux ». Il a fallu que je sauve ma peau pour sortir de cette merde et je n'avais finalement qu'une toute petite issue pour m'en sortir.
Voilà la voix de la légende de l'alpinisme Reinhold Messner. Une réaction à ce que vous venez d'entendre, Catherine Destivelle, et sur cette notion que je trouve très intéressante dans la bouche de Reinhold Messner, qui a été un petit peu l'un des rénovateurs de l'alpinisme dans les années 70 et qui avait un petit peu cette espèce d'aura de hippie. La liberté, c'est une illusion quand on est dans une aventure comme celle de l'alpinisme, et il faut toujours être vigilant, et finalement on est toujours à la merci du danger qui se présente.
Tout à fait. Par contre, c'est nous qui nous mettons nos propres règles. Mmh. C'est-à-dire qu'on est libre de faire ce qu'on... Voilà, on décide. C'est nous qui décidons. Il n'y a personne d'autre. C'est la nature et nous-mêmes. Jusqu'à quel point, jusqu'à quelle limite on accepte le risque. Enfin, voilà, on est quand même seul juge. Et ça, c'est pas la société qui va nous le dire, nous le dicter. Mmh. C'est la nature. Et donc, effectivement, on n'est pas libre, mais on est quand même libre, malgré tout, de faire ou pas.
d'y aller, surtout.
De renoncer ou de forcer un peu le destin. Mais voilà, je trouve quand même que la montagne reste un grand domaine de liberté, même si, effectivement, la nature va nous dicter ce qu'il faut faire et puis nous dire « fais gaffe ». Mais ça, c'est chacun est juge et chacun est libre de prendre sa décision. Ça, c'est encore unique. C'est un des rares univers dans lesquels on peut encore être tranquille et faire ce qu'on a envie de faire tout seul.
Au prix d'un effort quand même qui n'est pas à la portée de tout le monde, puisque voilà ce qu'a fait Reinhold Messner, ce que font ces grands alpinistes aujourd'hui encore d'escalader, de gravir ces sommets de plus de 8000 mètres, c'est pas à la portée de tout le monde. Et heureusement, parce que sinon les montagnes seraient surpeuplées. Mais Delphine Moraldo, pour en revenir un petit peu à l'évolution de l'alpinisme et peut-être à cette transition des années 70, 80, 90, on va vers plus de sportivisation de la discipline. Est-ce que ce qu'on va chercher, c'est plus la notion de performance sportive, de record à battre, de temps de parcours, etc.?
Alors en fait, c'est complexe de répondre à cette question parce que il y a toujours eu cette idée de record à battre et de performance en fait dans l'alpinisme, sans que ce soit revendiqué, parce que l'alpinisme, ça rentre pas dans la catégorie du sport. Il y a pas de compétition, il y a pas d'arbitre, il y a pas de standardisation, enfin il y a pas toutes ces choses qui font le sport. Donc les alpinistes souvent se mettent le sport à distance, disent que l'alpinisme c'est pas un sport, c'est un art de vivre, c'est autre chose, c'est une aventure, etc. Donc je pense qu'il y a toujours eu cette recherche de performance. elle prend des formes différentes aujourd'hui, comme on en a déjà parlé, avec des ascensions rapides, des ascensions en solitaire, des ascensions en solitaire très rapides, enfin voilà. Et cette recherche de performance, elle conduit à une mortalité beaucoup plus élevée aujourd'hui qu'elle ne l'était avant. Donc est-ce qu'on peut parler de sport dans... pour cette raison-là, je ne suis pas certaine. Par contre, il y a un élément qui fait penser au sport, c'est peut-être la commercialisation de l'alpinisme ou la sponsorisation de ses pratiquants et de ses meilleurs pratiquants, qui est quelque chose de très critiqué par les Anglais parce que ça se rapproche du sport et parce que ce n'est pas du tout amateur d'être sponsorisé. Mais effectivement, pour mener à bien des expéditions, partir plusieurs mois, accumuler le matériel, etc., bah, c'est bien d'être, et être médiatisé, c'est bien d'être sponsorisé. Il faut distinguer ici les grands alpinistes, comme disait Catherine Destivelle et comme l'est Catherine Destivelle.
Bien sûr, Catherine Destivelle, il faut quand même rappeler que vous avez inscrit votre nom à la liste des légendes de l'alpinisme. Vous avez qualifié de meilleure grimpeuse du monde 3 années de suite dans les années 80. Alors, bien sûr, c'est un honneur de vous avoir, même à distance, pour pouvoir parler de ça. Peut-être que, justement, je peux vous poser cette même question. Comment vous avez vu évoluer votre discipline, votre pratique? Et est-ce que vous êtes encore en accord avec ce qu'est l'alpinisme aujourd'hui?
Bah, tout à fait. Et on suit ça de façon... chaque génération s'illustre d'une façon différente et ça c'est très très intéressant de voir ça et voilà aujourd'hui malheureusement c'est moins connu parce que les belles performances sont moins connues parce que ça se passe souvent dans des endroits des sommets dont les noms sont presque imprononçables, on ne sait même pas si c'est en Inde, en Chine, au Pakistan, au Népal, ou au Tibet, enfin bref on est tous voilà mais il y a de grands noms de grands alpinistes que ce soit des Tchèques, des Slovènes, des Suisses, des Français, des Anglais, on les connaît peu, mais ils font de grandes performances et beaucoup plus belles que ce qu'on a pu faire, mais parce qu'il y a l'évolution du matériel, l'évolution de la météo, par exemple, aujourd'hui, chaque alpiniste chaque cordée a un routeur qui leur dit à peu près le temps qu'il va le faire. Après, ils prennent aussi leurs responsabilités, mais on n'y va pas les yeux fermés, mais malgré tout, c'est une grande aide. La progression aussi de l'entraînement, comment mieux s'entraîner, le trail je pense qu'a joué aussi un rôle important, donc aujourd'hui les alpinistes sont beaucoup plus forts que de ma génération, mais c'est ce qui est normal et ça va continuer à évoluer de cette façon. Alors ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui donc ces grands alpinistes, donc on ne connaît pas les noms parce que malheureusement les médias n'arrivent pas à suivre et même nous on est un peu perdus. Il faut vraiment être de la partie pour savoir si cette ascension est importante ou pas, connaître bien la géographie et puis ce qui s'est fait autour pour connaître avoir la valeur de leur performance. Puis il y a les gens qui font des choses très rapidement et qui se font aussi un nom comme ça pour exister aussi. Parce que là, il y a eu le Broad Peak qui vient d'être gravi par un Français en 7 heures, je ne sais plus combien, une performance incroyable. Mais ça, alors qu'il est techniquement très fort, et il a fait, je pense, ce record là aussi pour se dire, je suis là aussi, j'existe et c'est une façon de se faire remarquer, parce que la vitesse marque plus aujourd'hui que
l'ascension en elle-même.
La performance technique, voilà.
Merci beaucoup, Catherine Destivelle. Je suis malheureusement obligé de vous interrompre puisqu'on arrive au terme de cette émission. Merci beaucoup, beaucoup à tous les trois, Catherine Destivelle, Delphine Moraldo et Claude Gardien, de nous avoir accompagnés tout au long de cette heure. Merci aux équipes de France Bleu à Chambéry pour le duplex. Climb par Thundercat pour clore cette ascension en ondulant. C'était le choix musical avisé de Sam Bakiast. Un immense merci à toute la chouette équipe des têtes chercheuses de Reka qui m'a accompagné tout au long de ce mois de juillet. Garance Prema Agnolo, Loïc Dutois, Mariam Ibrahim, Alexandra Delbo à la réalisation. C'était d'abord David Jakubowicz, puis Nicolas Berger, épaulé par Sam Bakiast. Et à la technique aujourd'hui, c'était l'inénarrable Florent Bujon. Merci à tous. Vous pouvez réécouter chaque jour cette émission sur le site franceculture.fr ou bien sur l'appli Radio France. On vous retrouve bientôt dans le grand bain d'Eureka et d'ici là, n'oubliez pas, tout reste à découvrir.